tellement tu regardes le U. Seulement croisé son regard.
Radio G 101.5 FM.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Il s'agit en permanence d'ouvrir des possibles, de sortir ce qu'il y a de neuf dans le présent. Notre responsabilité, c'est de préparer sans cesse un surgissement qui se fera, mais qui est improgrammable. Parce qu'il est improgrammable, il s'agit justement de le préparer sans cesse. C'est ce qu'on appelle l'avant-garde, mais pas au sens où elle saurait à l'avance ce qui va se passer. Précisément, on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. Le cœur du pouvoir d'une classe dirigeante, c'est qu'elle a le pouvoir sur le travail. C'est pas qu'elle a le pouvoir sur l'argent. Décider que collectivement, nous ne travaillerons que selon notre éthique. Tant que nous ne serons pas décidés collectivement à ne plus produire de merde pour le capital, nous ne parviendrons pas, que ce soit par la violence ou par les urnes, à changer, à sortir du capitalisme.
S'affranchir de la tyrannie capitaliste, prendre le contrôle de nos vies, mais on ne rêve que de ça dans cette émission. Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off, suite de notre conversation avec le philosophe et historien Bernard Friot, qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir à ce micro il y a quelques années, où Bernard nous expliquait que, selon lui, il faudrait en finir avec les luttes défensives. Ces luttes défensives qu'on perd systématiquement depuis des décennies et qui consistent en gros à descendre dans la rue pour nous plaindre à chaque fois qu'un gouvernement attaque et détruit nos conquêtes sociales, retraites, sécu, services publics, etc. Conquis sociaux arrachés de hautes luttes par nos aïeux qui nous ont légué ces trésors publics sauvagement dépecés. Car pour le système capitaliste, retraites, santé, services publics ne sont pas des trésors communs, mais des marchés à prendre par quelques individus dont le but est de se faire du fric sur chaque aspect de nos vies, au détriment du plus grand nombre. Marchandiser la santé, marchandiser la retraite, marchandiser l'école, marchandiser tout. Et depuis des décennies, gouvernement après gouvernement, supposé socialiste ou pas, on se laisse dépouiller de nos conquis sociaux et on va geindre dans des manifs qui ne servent pas à grand-chose si elles n'engendrent pas de grève générale. Alors en finir avec les luttes défensives, ok, mais que pourraient donc être des luttes offensives ? Le nouvel entretien avec Bernard Friot qu'on vous propose aujourd'hui a été enregistré pendant le premier confinement du printemps 2020. Mais cette conversation a dormi en archive pendant presque 2 ans, car pour caricaturer mon ressenti de l'époque, ce que disait Bernard m'avait laissé un peu sur ma faim quant au « yaka faucon ». D'accord ? Mais comment on fait ? Nombre d'utopies sont devenues des réalités après des combats souvent acharnés. Pendant longtemps, par exemple, avant que n'existe la retraite ou l'école obligatoire, payer pour des gens qui ne travaillent pas, comme les vieux ou les enfants, c'était une utopie. Autre exemple, le vote des femmes a longtemps été une utopie. Mais ce qui me semblait à l'époque manquer dans le propos de Bernard, c'est comment concrètement se donner les moyens de réaliser ces utopies. Comment prendre le pouvoir ? Et puisque les luttes défensives semblent vouées à l'échec, par quel type de luttes offensives parvenir à nos fins ? Sachant que le système capitaliste et sa bourgeoisie ne nous laisseront pas faire. Avant de retrouver Bernard Friot et une révolution anticapitaliste, première piste de réflexion en musique livrée par le chanteur Charlus, ça s'intitule « J'ai engueulé le patron ».
très malheureux qu'en République, il y a du moyen de travailler. Les employeurs sont des bourriques qui considèrent plus l'ouvrier. Ainsi je grattais à la filette, quand on va dire l'autre matin, il va y avoir 3 jours de fête, vous ferez le pont, ça vous ira bien. J'ai commencé par engueuler le patron en y disant, vous êtes qu'un sale cochon. Les travailleurs, il faut les respecter. Je m'ai mis en grève et j'ai tout plaqué. Oh, y a les patrons.
Bernard Friot, bonjour.
Bonjour.
Absolument ravi, une fois de plus, qu'on se retrouve autour de ce micro. Ce qu'on se raconte, c'est très enthousiasmant. Il s'agit de faire la révolution. Il faut prendre le contrôle de nos vies, prendre le contrôle de nos outils de travail, prendre en fait le contrôle de tout. On a aussi rappelé, parce qu'en même temps, on a du mal à s'en souvenir, enfin, faut dire que c'est tellement pas enseigné, que pour prendre l'histoire de France, tout ce qui a été obtenu, tous les droits dont on jouit en ce moment, et que les pouvoirs successifs qui se prétendent de gauche ou pas détruisent systématiquement. Retraite, sécurité sociale, école, service public, CAF, planning familial, enfin, toutes ces choses-là n'ont pas été données, elles ont été conquises. Ça a d'ailleurs fait des morts, et ça a duré très longtemps. Et jusqu'à présent, je crois qu'il n'y a eu qu'une seule manière d'obtenir des choses. C'était la grève générale, la manif, la lutte, éventuellement armée, comme ça a été le cas entre 40 et 44. Et on pourra peut-être dire que ça a fonctionné parce que c'était des luttes offensives. Moi qui fais des manifs depuis 95, depuis la réforme Juppé, je me prends des fessées depuis 25 ans. 25 ans, c'est long et on en arrive à se dire « Ouais, faudrait peut-être en finir avec ces luttes défensives. » Et ces armes qui étaient la manif, etc., qui ont été offensives, ont porté des gains, bah là, elles fonctionnent plus. Et on va en parler ensemble pendant une heure, il va falloir en trouver d'autres. Donc vous êtes d'accord avec ça, Bernard Friot, jusqu'à présent, c'est la lutte offensive qui a porté des fruits et qui nous a donné des droits.
Ah oui, bien sûr, hein. Tout dépend ensuite de ce qu'on appelle lutte offensive. Oui, bien sûr qu'elle s'est située aussi dans la rue, dans des manifestations et puis dans des arrêts de travail sous forme de grève. De grève générale, il n'y en a jamais eu, mais des grèves quand même généralisées, comme 68 par exemple. Mais pour moi, ce qui me paraît aujourd'hui vraiment central comme forme de lutte, parce que le capitalisme nous a maintenant menés à l'os, disons, on ne peut plus contourner la bataille centrale, c'est-à-dire le contrôle de la production, le contrôle du travail, le contrôle de la valeur économique. Pour moi, le cœur de la lutte offensive, encore une fois, c'est le fait de prendre le pouvoir sur le travail concret dans les entreprises.
Moi, j'entends bien hein, tous les copains qui disent « mais on ras-le-bol de perdre des journées de salaire pour faire des promenades syndicales, ça fait rigoler les patrons. » Tout est fait dans le système médiatique pour faire croire aux gens qu'ils ne sont rien. Et donc, on a aussi beaucoup de gens résignés qui disent « ouais, mais de toute façon, comme on n'est rien, ce qu'on pourrait faire, ça servira à rien. » Non, non, vous n'êtes pas rien, vous êtes un grain de sable. Vous n'êtes pas grand-chose. Et pas grand-chose, c'est pas rien. Je pense que, malgré tout que la manif, c'est pas une fin en soi, voilà. On ne fait pas des manifs pour faire des manifs. Mais c'est un outil parmi plein d'autres, et il sert déjà pour un début, pour amorcer, à se compter, à se rencontrer. Et Bernard Friot, permettez-moi, mais je vous trouve plein de contradictions, parce que vous êtes un militant communiste, un syndicaliste, des manifs, vous en avez fait, vous savez ce que c'est, vous en avez encore fait récemment, tout en disant que faut en finir avec les luttes défensives, et je suis persuadé que quand les personnels soignants de l'hôpital public seront prochainement dans la rue, je suis sûr que vous serez avec eux. Petite contradiction. En est-ce une, d'ailleurs?
Non, c'est pas une contradiction, hein. C'est le fait que l'activité militante, elle s'exprime de différentes façons. Vous avez d'ailleurs dit vous-même hein, les limites de mobilisation dans la rue. Hein, c'est encore une fois, tant que nous ne prendrons pas le lieu central de la lutte de classe, c'est-à-dire le lieu où on produit la valeur économique, on pourra toujours multiplier des protestations dans la rue. On voit très bien d'ailleurs comment tout ça a été intégré par la classe dirigeante. Alors oui, à contrario, bien sûr, on a vu comment les ronds-points, une présence dans l'espace public de personnes qui jusqu'ici avaient été parfois absente des batailles syndicales et des mobilisations traditionnelles.
Vous parlez des gilets jaunes, je vais vous le dire en synthèse, moi, de ce que j'en ai observé ici dans ma ville, à Tours, ils ont fait en un an un cheminement de dingue, effectivement, probablement que beaucoup d'entre eux n'avaient jamais manifesté de leur vie, et je peux vous assurer que les cerveaux, ils ont fumé, et qu'ils ont réinventé la démocratie horizontale, le référendum d'initiative citoyenne, on peut en dire ce qu'on en veut, mais certains d'entre eux inclurent des préoccupations écologiques, d'autres allaient rejoindre les rangs de Sud Solidaire. Ces gens ont réinventé la roue spontanément et je trouve ça admirable. Et moi, ça m'a enthousiasmé.
Non, mais j'ai exactement la même opinion sur la question. Hein. C'est-à-dire que la preuve que ce genre de mobilisation est utile, c'est qu'elles ont été vraiment férocement combattues, à la fois par les médias dominants qui ont méprisé ces manifestants et puis par la police, par tout le pouvoir d'État, la justice, enfin tout cela, évidemment. Donc ça montre à contrario que ce sont des formes utiles, et vous avez parfaitement raison de dire combien ça a permis, comme toutes les mobilisations d'ailleurs, quelles qu'elles soient, des prises de conscience, des gens qui se croyaient tout seuls et qui s'aperçoivent qu'ils sont plusieurs, qu'ils sont nombreux, des expériences, des échanges d'expériences, en fait, etc., et une des avancées.
Ils ont remonté le moral aussi. Moi, j'ai plein de copains syndicalistes au syndicat Sud Solidaire, tant dans la santé que chez les cheminots. Ils sont super admiratifs aussi. Ils ont dit là, nous, les gilets jaunes, parce que nous, les syndicats, on est bien gentils, on fait bien là où on nous dit de faire. Et les gilets jaunes, ils ont, il y a eu de l'échange. Je sais pas si on peut parler de convergence, mais tout simplement, Bernard, j'ai fait du lien avec des gens que j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer autrement.
Mais bien sûr. Hein.
C'est notre formule, en finir avec les luttes défensives. Ça fait résonance à un truc qu'on se dit tous. Il y en a ras-le-bol de perdre des journées de salaire à faire des promenades syndicales. C'est quand qu'on l'a fait, cette révolution où on prend le contrôle de nos vies.
Il n'y a pas que des promenades syndicales, justement. Il y a aussi des formes de mobilisation qui, encore une fois, qui, parce qu'elles sont hors du lieu de travail, montrent leurs limites. Et les mobilisations des Gilets jaunes ont montré leurs limites comme celles des syndicats. Et donc, pour moi, la crise du travail, telle que le capitalisme y conduit, avec des travaux inutiles, des travaux dangereux, des travaux qui nous mènent dans un mur écologique, des travaux que nous aimons mais que nous ne maîtrisons pas du tout, que nous ne pouvons pas faire comme nous entendons, enfin des travaux qui sont étrangers finalement à nos personnes, cette crise du travail-là nous rejoint au cœur. D'ailleurs, la mobilisation des syndicalistes ou celle des Gilets jaunes, dans son fondement, c'est la crise du travail. Et donc, si nous ne nous attaquons pas à la question de la souveraineté sur le travail concret, je pense que nous allons en permanence nous épuiser dans des luttes défensives, même si elles sont inventives dans leur forme, bien sûr.
Bon, cette révolution, soit c'est les événements qui nous dicteront, hein, ça s'est vu dans l'histoire, des fois c'est tellement dramatique que les gens n'ont pas le choix que de se prendre en main. Et puis on peut aussi préparer des outils. Et vous avez dit une chose qui me semble fondamentale, que j'oublie régulièrement et que régulièrement quelqu'un me rappelle. On n'a jamais fédéré qui que ce soit sous un bonnet de nuit. Il faut lutter pour nous, pour prendre le contrôle de nos vies. Une anecdote qui illustre ce que vous disiez. Vous parliez de grands travaux inutiles et trucs comme ça. Je suis plusieurs fois allé faire du reportage sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. J'ai eu notamment un entretien avec un zadiste et je lui ai surtout demandé de me parler du quotidien et de comment vous faites. Parce que pendant 10 ans, ces gens ont tenu sans police, sans hôpitaux psychiatriques, sans tribunaux, sans argent parfois même. Et c'est que leur truc, il était bien pensé parce que sinon ça se serait écroulé au bout de 6 semaines. Or, ça a duré 10 ans. Ils ont même produit de la nourriture qu'ils ont exportée à Calais. Ils font pousser des céréales. Ils font eux-mêmes leur pain. Il y a des non-marchés. Donc, si on a de l'argent, on achète le pain. Si on n'a pas d'argent, bah, on le prend. Mais c'est pas grave. On se rend utile ou pas, d'ailleurs. Enfin, bon, voilà. Et ça a fonctionné 10 piges. Et avec ce zadiste, là, qui m'expliquait tout ça, on a parlé, alors, je vais dire des gros mots sûrement pour des zadistes, mais pour aller vite, démocratie horizontale. Bon, voilà. Et ça a duré 2 heures d'explication de ce quotidien de la ZAD. Et j'éteins mon magnétophone, je m'en vais, et le mec me rattrape par la manche, il me dit « Attends, rallume ton magnéto, parce que j'ai oublié de te dire le principal. » Là, on a parlé boutique. Il m'a dit « Tu sais quoi, le principal, et pourquoi en fait ça fonctionne ? C'est parce qu'on est heureux d'être ensemble, on est heureux de faire ce qu'on fait, on en éprouve de la joie, et c'est comme ça qu'on a pu tenir par exemple un hiver dans des guitounes, avec une cuisine qui n'avait que 2 murs et pas de toit, transi, mais parce qu'on était heureux. » L'ingrédient essentiel de la lutte, elle ne peut fonctionner que si elle se passe dans la joie. Et il me semble que quand vous dites faut arrêter de lutter contre, faut lutter pour, bah c'est la même chose, non ?
Mais bien sûr. D'ailleurs, il n'y aurait pas eu l'acharnement du pouvoir macronien contre la ZAD.
Et hollandien juste avant.
Bien sûr, mais je parle de la destruction de la ZAD à coups de bulldozer et de flics. Si elle n'anticipait pas notre avenir, hein, si elle n'était pas déjà là, de ce que c'est que prendre en main notre vie, comme vous le disiez tout à l'heure. Et évidemment que c'est source de joie, hein, et qu'on ne peut pas, dans le long terme, changer notre rapport à la production, puisque moi, mon domaine, je n'ai pas parlé du changement de la vie dans toutes ses dimensions. Moi, je ne connais pas tout ça, mais...
Bah oui, mais enfin, vous parliez aussi de mettre la main sur notre logement, sur notre manière de nous transporter, de nous nourrir. Et d'ailleurs, il y a déjà plein de gens dans leur coin, effectivement, qui bossent là-dessus, qui font de l'éco-construction, qui font du potager en permaculture ou pas. Enfin, il y a plein de petites lumières, déjà, qui scintillent partout. Hein.
Voilà, et qui sont à base, justement, du bonheur... de construire ensemble des alternatives à l'agrobusiness, au grand transport capitaliste, en fait, etc., etc. Bien sûr, hein. C'est pour ça que je suis tellement en pétard contre la gestion de la souffrance au travail que font beaucoup trop souvent nos organisations. Hein. Il ne s'agit pas de gérer la souffrance au travail, il s'agit de prendre la main sur le travail et de s'apercevoir que du coup, on est heureux.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop en auto, métro ou vélo vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Plus tard, ils sont costauds. Mais faut reprendre le boulot. Allez tous ensemble.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot.
Bernard, ce qu'on appelle la révolution, reprendre le contrôle de nos vies, par le contrôle notamment de l'outil de travail, etc. Les révolutions dans l'histoire, souvent, elles se sont pas déclenchées parce que les gens y avaient pensé à faire une révolution. C'est les événements. Par exemple, l'exemple de la Russie de 1917. Les paysans étaient pas plus que ça favorables aux bolcheviks, mais on les envoyait se faire trouer la paillasse dans les tranchées. Ils avaient même pas de balles pour se battre. Chez eux, leur famille crevait de faim. Les bolcheviks promettaient la paix et la terre. Les paysans se sont rendus compte que, de toute façon, avec les Russes blancs, avec les tsaristes, ce serait encore pire que les bolcheviks. Et parce que ce pays était dans un chaos pas possible, machin, ben, y a un processus révolutionnaire. Il n'est pas question de dire si ça a été bien ou pas après, ce n'est pas le débat. Quelques mois ou un an avant octobre 17, Lénine disait à ses camarades qu'ils ne verraient jamais la révolution de leur vivant. Alors c'est pas parce que des gens ont décidé, c'est parce qu'il y a un truc qui s'effondre, il y a un machin qui marche plus et les gens n'ont plus le choix et ils y vont. Que pensez-vous de mon interrogation ?
Bah, je suis pas très doué dans la réflexion sur le pourquoi du comment. Ce que je constate sur le terrain dans mon objet de recherche, par exemple, lorsque en 1946 se crée le régime général de sécurité sociale à l'initiative du Parti communiste et des communistes dans la CGT, seul contre tous globalement, puisqu'il y avait un programme du CNR, dit-on, mais en réalité, seuls les communistes voulaient son application. Ni la SFIO, ni le MRP, ni les gaullistes ne voulaient l'application du programme du CNR. Et donc, seul contre tous... Pourquoi est-ce qu'ils ont pu créer ce régime général qui est encore l'objet d'une telle haine de classe de la part des dirigeants et du patronat? Mais c'est parce qu'il y a eu effectivement une mobilisation populaire. Et cette mobilisation populaire, et on voit la même mobilisation populaire en 1946 en Angleterre, avec la création du Service national de santé et puis de l'habitat social, avec l'aile gauche du Parti travailliste, il y a un soutien populaire. Pourquoi ? Parce que des personnes en nombre suffisant ont fait l'expérience de l'échec complet du capitalisme dans les années 30, de la façon dont il finalement nous avait conduit à la guerre, et il y a une volonté de passer à autre chose. Donc bien sûr que on peut aussi espérer que aujourd'hui la conscience beaucoup plus claire que le capitalisme nous conduit dans un mur sanitaire, dans un mur écologique, dans un mur anthropologique. On produit des trucs totalement inutiles ou on ne produit pas les choses indispensables, etc., etc. On peut espérer, bien sûr, que cela va susciter une dynamique collective imprévisible. Personne n'avait prévu qu'il y aurait une telle mobilisation en 46 autour de la création du régime général. Ça a surpris, je dirais, tout le monde. Et de la même façon, notre responsabilité, c'est de préparer sans cesse un surgissement qui se fera, mais qui est improgrammable. Parce qu'il est improgrammable, il s'agit justement de le préparer sans cesse. C'est ce qu'on appelle l'avant-garde, mais pas au sens où elle saurait à l'avance ce qui va se passer. Précisément, on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. Pas du tout. Mais il s'agit en permanence d'ouvrir des possibles, de sortir ce qu'il y a de neuf dans le présent. C'est toujours comme ça que les choses se passent. Hein.
La preuve qu'il va se passer quelque chose, c'est qu'on ne voit rien venir. Pour en revenir à ce que vous disiez à l'instant aussi sur le côté imprévisible des choses, en avril 1968, la presse française titrait « La France s'ennuie ». Or, c'est tout à fait faux parce que un mouvement social très dur et des ouvriers en grève et des pavés qui volaient, il y en avait dès 1967.
Bien sûr, des mobilisations considérables. En 1967, vous avez de considérables mobilisations, bien sûr.
Depuis nos récents entretiens, je me dis, bon, bah, Friot, il a raison. Il faut qu'on reprenne le contrôle de nos vies, notamment de nos outils de production, etc. Mais il manque une étape, c'est le comment on fait. L'exemple LIP, donc ces ouvriers de l'horlogerie qui, dans les années 70, avaient été lourdés de leur boulot et qui ont repris la main sur l'outil de production. Friot, ce qu'il raconte, ça peut être un exemple comme celui de LIP. C'est des ouvriers qui remettent la main sur leur outil de production et qui décident comment fabriquer, comment vendre.
Oui, mais bien sûr, hein, parce qu'il y a régulièrement des reprises d'entreprises par leurs salariés lorsque les patrons met la clé sous la porte. C'est là le point central, c'est que ces effervescences locales restent jusqu'à présent isolées. Et donc, tout l'enjeu, à mon sens, de la prise en main par nous-mêmes du travail, c'est de sortir de l'isolement dans lequel, de la marginalité dans laquelle sont tenues toutes ces expériences d'alternatives ici et maintenant dans lesquelles les travailleurs prennent leur outil de travail en main. Et donc, ce qu'il faut, c'est retrouver précisément, encore une fois, pourquoi inventer l'eau chaude alors que le mouvement ouvrier a déjà su sortir l'immobilisation des risques de marginalité en créant des institutions macroéconomiques. Le régime général de sécurité sociale dont je parlais tout à l'heure, c'est une institution macroéconomique qui fait que les travailleurs en 47, à travers leurs élus, puisqu'il y a des élections en mars ou avril 47 au régime général, pour la gestion du régime général, donc des travailleurs gèrent l'équivalent de la moitié du budget de l'État, du tiers de la masse salariale, ils sont aux affaires. Et dans les années 60, ce sera l'équivalent du budget de l'État. Donc, la sécurité sociale, c'était des institutions patronales extrêmement diverses. Et tout l'art de la classe ouvrière, ça a été de réunir tout cela dans un régime général géré par eux. Quand on prend le statut de la fonction publique, pareil, on a un dispositif extrêmement passionnant qui, dans la loi Torres, ministre communiste chargé de mettre en place la fonction publique en 46, dans la loi Torres d'octobre 46 concerne 500 000 personnes, 500 000 fonctionnaires, aujourd'hui 5 millions. Donc, bien sûr que nous avons su créer des institutions macroéconomiques de l'alternative qui sont absolument indispensables. Et sur ce modèle-là, donc sans chercher midi à 14h, nous pouvons créer, et vous y faisiez allusion tout à l'heure, des sécurités sociales, du transport de proximité, de l'alimentation, de la culture, de l'habitat, de l'énergie. Prenons l'exemple, par exemple, qui est peut-être pour le moment le plus abouti dans sa réflexion, dans une association dont je fais partie, qui s'appelle Réseau Salariat, à la proposition de sécurité sociale de l'alimentation. Alors, on part d'un déjà-là. Ce déjà-là, c'est la sécurité sociale du soin. Tellement combattu depuis 30 ans que l'on a vu son immense difficulté, avec des prodiges de mobilisation des personnels, hein, qu'on n'aurait pas vu dans le secteur privé d'ailleurs. Hein. Les travailleurs ne sont pas prêts à se mobiliser pour produire dans des conditions extrêmement difficiles, je sais pas quoi, moi, du parfum pour alimenter le profit de Madame Bettencourt. En revanche, on voit comment dans un service public dont l'utilité sociale est absolument nécessaire, alors que les parfums de Madame Bettencourt, de LVMH et autres produits de luxe, de tout ça est parfaitement inutile. On voit comment les travailleurs se mobilisent. Et l'enjeu n'est pas simplement de les applaudir à 20h, c'est de désormais nous mobiliser exclusivement pour des travaux qui ont du sens et de ne plus faire de luxe pour LVMH, de ne plus fréquenter de fondations culturelles dans lesquelles tous ces parasites blanchissent leur argent sale, comme la fondation Vuitton et tous ces machins-là.
C'est bien que vous parliez de ça, ça me soulage beaucoup, parce que figurez-vous que je ne suis pas allé voir la rétrospective Jean-Michel Basquiat, dont j'apprécie beaucoup le travail, mais parce que c'était chez Vuitton, je crois, un gros collabo. Comme tous les marchands de luxe, hein, que ce soit les Coco Chanel ou les je sais pas quoi, ils ont tous trempé à mort dans la collaboration, ces gens-là. Non mais rien que pour ça, si vous voulez, je refuse de filer mon pognon à Vuitton et aux autres, même si c'est pour me priver de ce truc formidable qu'il fallait que tout le monde ait absolument vu, qui était la rétrospective Basquiat.
Évidemment, il faut absolument boycotter tous ces lieux, bien sûr. Et donc, sur ce modèle donc, de la sécurité sociale du soin, en difficulté depuis que le taux de cotisation est gelé, hein, il n'y a aucune hausse de taux de cotisation en matière d'assurance maladie depuis la fin des années 60, ça fait quand même longtemps. Il a doublé entre 45 et la fin des années 70, et depuis la fin des années 70, il est gelé à 16% du salaire brut, ou à peu près. Et donc, sur ce modèle-là, dans lequel un taux de cotisation en hausse permet de subventionner l'investissement et de payer les travailleurs pour leur qualification personnelle, et non pas pour leur performance sur le marché des biens et services ou sur le marché du travail. Ce qui se fait exactement en matière de soins, où nous avons des hôpitaux publics qui ne dépendent pas du capital privé, qui ont été mis en place, et Dieu sait si ça a été un effort énorme dans les années 60 de mettre en place les CHU, enfin, etc. Hein, tout ça est né de rien, pratiquement, hein, avec un régime général qui était encore géré par les travailleurs eux-mêmes et qui ont su impulser une formidable mutation de la production de soins autour de principes communistes, c'est-à-dire propriété collective de l'appareil de production, et puis personnel libéré du marché du travail parce que titulaire d'un grade à travers la fonction publique hospitalière, ou travailleurs indépendants, mais eux libérés également de l'obligation de performance marchande par un conventionnement avec l'assurance maladie. Donc, on a su inventer une forme alternative de soins. C'est pour cela qu'il y a un tel acharnement du pouvoir contre elle. C'est un acharnement contre un mode de production du soin qui échappe complètement à la logique capitaliste. Pas complètement, hélas, parce que le médicament est resté, lui, capitaliste, et que l'assurance maladie, hélas, est un formidable marché public pour les Sanofi et autres qui ont subverti, perverti, pour une part, la pratique du soin en imposant des logiques médicamenteuses, etc., des logiques curatives à la place du préventif, etc., etc. Et donc, sur ce modèle, ben, nous pouvons très bien faire une sécurité sociale de l'alimentation dans laquelle nous allons, sur la carte vitale, nous pouvons, par exemple, l'abonder de 100 euros chaque mois à toute personne résidant sur le territoire français Et on ne pourrait utiliser ces 100 euros qu'auprès de professionnels conventionnés. Et qui allons-nous conventionner ? Eh bien, tous ceux précisément des alternatives, des ZAD et des autres alternatives dont nous avons parlé. C'est-à-dire tous celles et ceux qui aujourd'hui se mobilisent pour faire de l'agriculture biologique, pour faire de la distribution d'alimentation en dehors de la logique de la grande distribution capitaliste, pour faire de la restauration complètement en dehors des enseignes de restauration industrielle, pour faire des produits bruts, du blé, etc., ou élaborés, de la bière, etc., dans des entreprises qui sont la propriété de ceux qui y travaillent, dans le respect du droit du travail. Tout cela existe, tout cela est marginal, est combattu, évidemment, par l'agrobusiness, par la FNSEA, par le ministère de l'Agriculture, et un jour ou l'autre par les flics, comme on l'a vu à la ZAD, effectivement. Mais si nous créons une cotisation qui va collecter 120 milliards, dont 80, parce que pour affecter 100 euros par personne et par mois, il faut 80 milliards, dont 80 qui représentent le tiers de la consommation d'aliments, donc ça n'est pas rien du tout. Si nous soustrayons le tiers de la consommation alimentaire à la grande distribution, à l'agro-business, mais nous le mettons en très grande difficulté, parce que c'est le mode capitaliste de production ne supporte pas la moindre baisse de son chiffre d'affaires. Il faut chercher des appuis aussi du côté d'entrepreneurs qui voient très bien combien leurs adversaires, c'est en réalité les groupes capitalistes dominants. Hein. Il ne s'agit pas de mettre toutes les entreprises dans le même sac, ce serait une erreur, je pense. Hein.
Ce qui est incroyable, c'est qu'on réussit à faire croire à des gars qui ont des petites PME de plomberie ou autres qui font partie du patronat. Il n'y a qu'un seul syndicat patronal, c'est le MEDEF. C'est quand même stupéfiant de réussir à faire croire à des auto-entrepreneurs ou des petits artisans qu'ils sont les égaux de Bolloré.
Oui, c'est à nous, justement, hein, de savoir faire l'unité avec des personnes de ce genre, plutôt que de les rejeter dans le camp de l'adversaire en permanence, bien sûr. Et une sécurité sociale de l'alimentation qui assurerait à des tas d'agriculteurs qui sont aujourd'hui enfoncés dans l'agro-business, mais qui aspirent à produire autrement, qui aspirent à pouvoir manger eux-mêmes les poulets qu'ils produisent alors qu'ils se gardent bien de le faire, parce que c'est des poulets industriels dont ils savent que c'est de la merde, etc. Tous les, je sais pas quoi, les boulangers qui aspirent à sortir de la domination des moulins qui font de la banette, de la campagnette, je ne sais trop quelle historiette de ce genre, sans aucune liberté en réalité. Tous ces restaurateurs qui souhaitent produire une restauration à des prix raisonnables, biologiques, etc., etc. Et puis tous ces ingénieurs qui font des outils agricoles réparables. Et non pas ces outils non réparables que produit Massé Ferguson ou que produisent les entreprises capitalistes qui font toujours un truc non réparable pour qu'on ait aucune maîtrise sur l'outil, y compris quand on est indépendant. Bien sûr que nous allons nous appuyer sur ce déjà-là de gens qui sont heureux de produire dans l'alternative, mais qui sont inquiets de voir que Carrefour et autres prétendent devenir les monopoleurs du biologique, par exemple. Hein. Donc sortir de la marginalité, ça suppose une institution macroéconomique, une cotisation, pas simplement de 80 milliards, mais de 120 milliards, parce que aujourd'hui, les alternatives en matière agricole ne sont pas suffisamment nombreuses. Il faut acheter de la terre pour la sortir du marché. Il faut subventionner des investissements. Et il faut payer à la qualification personnelle des producteurs qui aujourd'hui se payent difficilement au SMIC. Tout cela suppose qu'au-delà des 80 milliards qui iraient à la solvabilisation de l'achat d'alimentation auprès de ces personnes, il y ait en plus un soutien à leur investissement, un soutien à leurs revenus, et que ces 120 milliards-là mettent en difficulté, là, qu'on ne soit plus dans la protestation contre la folie écologique du capital, mais qu'on le mette effectivement en difficulté en s'appuyant sur ceux qui, justement, aujourd'hui, sont investis dans l'alternative et sont heureux d'être investis dans l'alternative. Et donc, comment financer 120 milliards ? 120 milliards, c'est 8% de la valeur ajoutée marchande. Hein. Beaucoup d'entreprises ne sont pas capables de cotiser 8% de leur valeur ajoutée en plus des salaires, des dépenses d'investissement, etc., etc. Mais nous allons faire en sorte que ce soit une opération blanche à l'échelle macroéconomique pour les entreprises. Supposons une entreprise qui a 1 million de valeur ajoutée, par exemple, et qui va donc avoir une cotisation de 8% de 80 000 euros. Eh bien, elle ne remboursera pas 80 000 euros de dette d'investissement. C'est-à-dire que nous allons prendre des mesures d'illégitimité de la dette en matière d'investissement, des mesures qui vont affronter le cœur du capitalisme. Pour parler de capitalisme financier, les prêteurs, ben oui, c'est ce cœur du capitalisme-là qu'il faut affronter en l'asséchant, en ne remboursant pas les dettes. Hein. Là, nous sommes vraiment à contre-pied de tout le plan actuel par lequel la classe dirigeante se prépare à des jours heureux après le confinement, c'est-à-dire les 300 milliards de garantie des emprunts des entreprises que le gouvernement a décidé. C'est-à-dire qu'il veut sauver le cœur du capitalisme, assurer que les entreprises pourront rembourser leurs dettes, alors qu'il faut que les entreprises ne remboursent pas leurs dettes, évidemment. C'est quoi un prêteur ? Un prêteur, c'est un capitaliste qui a ponctionné une partie de la valeur que nous produisons et qui ensuite nous la prête. Et puis il faut qu'on le rembourse avec un taux de rendement absolument considérable. Ou alors c'est quelqu'un qui crée de la monnaie. Et il faut ensuite qu'on le rembourse alors qu'il s'est contenté de créer de la monnaie. Donc nous ne pouvons pas continuer indéfiniment à sauver les prêteurs. Il s'agit que les prêteurs, au contraire, disparaissent. C'est nous qui produisons la valeur, nous n'avons pas du tout besoin de prêteurs. Nous avons besoin qu'une partie de la valeur que nous produisons chaque année aille à une cotisation investissement et que des caisses d'investissement gérées par nous, par exemple une caisse d'alimentation gérée par les travailleurs eux-mêmes, comme la caisse du régime général a été gérée par les travailleurs jusqu'à ce que De Gaulle supprime cette gestion en 67, nous allons faire la preuve qu'une alimentation sortie des griffes de l'agro-business est possible. Et donc, on va s'appuyer, si vous avez parfaitement raison d'insister là-dessus au départ de l'entretien, on va s'appuyer sur le déjà-là, source de profonde joie de tous ceux qui sont dans l'alternative, et on va les sortir de la marginalité dans une action sur la production. Et c'est vraiment fondamental. Je ne nie pas toutes les formes de mobilisation dans les ronds-points ou dans les rues, mais j'insiste sur l'absolue nécessité de déplacer le cœur de nos mobilisations sur le travail et sur les lieux de travail.
Depuis tout à l'heure, Bernard Friot, j'ai envie de glisser dans notre entretien une page de publicité pour les thés et infusions 1336. C'est les anciens salariés des thés Lipton. Et ils font notamment du très bon thé caramel et c'est à l'instar des Lip, des gens qu'on avait voulu virer de leur outil de travail, de leur usine et qui ont remis la main dessus. 1336, c'est pas que la fabrique a été fondée au XIVe siècle, c'est le nombre de jours de grève qu'ils ont fait avant de mettre la main sur leur outil de production.
Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur.
Ah, 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 ah oui.
D'humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux. La, 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 yeah.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci.
Travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron,
merci patron,
merci patron,
merci patron.
Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra.
Quand on pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend, nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes.
Ah, 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 ah oui.
Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges.
La, 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 yeah. Mais
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des fous.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra.
Mais en attendant ce jour, pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir.
Oui.
Nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle, et nous nous occuperons de vos ennuis de patron. Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
À vous le plaisir de travailler pour nous.
Vous serez heureux comme un fou.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Ce que vous avez fait pour nous,
nous le referons pour vous.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Ça fait toujours du bien, un bon vieux coup de charlot, avant de reprendre cette conversation avec Bernard Friot. Entretien réalisé pendant le premier confinement du printemps 2020 et gardé sous le coude jusqu'en ce début d'année 2022, où il ressort enfin pour cette émission en ce temps du soi-disant monde d'après, qui a déjà en fait commencé depuis un bon moment d'ailleurs. Monde d'après où nombre d'entre nous semblent politiquement et philosophiquement chamboulés, sidérés, comme orphelins d'une utopie d'équité et de solidarité, orphelins de gauche en fait. Peut-être que nous serions désormais dans un temps pour réécouter ce que Bernard disait au printemps 2020 dans le soi-disant monde d'avant. Et on en revient donc à ce qui m'avait laissé sceptique à l'époque. Bon, bah oui, Bernard, d'accord, faut prendre le contrôle de nos vies, des moyens de production et d'échange, balancer des milliards d'euros pour soulager la misère du monde, ok. Mais comment on fait pour nous prendre ce pouvoir de créer une société juste et solidaire? Question déjà posée plusieurs fois dans cette conversation, à laquelle Bernard a déjà répondu plusieurs fois. Mais la pédagogie, c'est l'art de la répétition, surtout pour ceux qui comprennent vite, mais auxquels faut expliquer longtemps. Bernard, donc ça veut dire que si on débloque de l'argent, si on développe ces systèmes solidaires, ça veut dire qu'on a le pouvoir. Alors, personnellement, ça fait quelque temps que je ne suis pas allé à mes entraînements paramilitaires. Je serais bien mal en peine de démonter un AK-47 les yeux bandés. Et je pense que la violence est le piège grossier dans lequel ceux d'en face, les larbins du capital, Macron ou qui s'appelle Hollande ou Sarkozy, c'est pareil, ils veulent nous faire tomber dans ce piège de la violence. Un, c'est pas notre culture, enfin c'est pas ce qu'on a envie de faire. Et de toute façon, si on se lançait là-dedans, on perdrait parce qu'ils ne savent faire que ça. Donc, ça veut dire qu'il reste encore une autre option. C'est le politique. Et j'entendais une fois Monique Pinson-Charlot, la sociologue, qui disait c'est pas parce qu'on fait partie des opprimés et des exploités qu'il faut voter con. Et je me souviens, lors d'une de nos rencontres, je vous avais dit, c'est tout à fait critiquable, comme toute chose d'ailleurs, mais là, si c'est pas les fusils, ce sera pourquoi pas les urnes, qu'est-ce qu'il y a dans le paysage? Bon, le truc qui s'approche le plus de ce que moi je voudrais, c'est la France insoumise. Et vous m'avez dit, Jean-Baptiste, vous êtes encore loin du compte.
Non, mais c'est pas le problème de mettre en cause la France insoumise. Moi, je suis au Parti communiste. Le programme du Parti communiste, la France insoumise, c'est à peu près des programmes jumeaux. Hein. Donc
on fait comment? On prend le pouvoir par le politique?
Non.
Par les urnes?
Non, on ne prend pas le pouvoir par le politique et par les urnes. Ça, c'est une faute stratégique. L'alternative, c'est pas la violence ou les urnes. Pas du tout. L'alternative, c'est aller au boulot en traînant les pieds ou décider que collectivement, nous ne travaillerons que selon notre éthique. C'est tout. Il n'y a pas d'autre alternative que cela. Tant que nous ne serons pas décidés collectivement à ne plus produire de merde pour le capital, nous ne parviendrons pas, que ce soit par la violence ou par les urnes, à changer, à sortir du capitalisme. Le cœur du pouvoir d'une classe dirigeante, le cœur de son pouvoir, c'est qu'elle a le pouvoir sur le travail. C'est pas qu'elle a le pouvoir sur l'argent. Et que par une bonne fiscalité, on pourrait lui prendre son fric, etc. C'est pas ça du tout. Le cœur du pouvoir d'une classe dirigeante, c'est qu'elle a le pouvoir sur le travail. Et donc le cœur de la lutte de classe, c'est la prise de pouvoir sur le travail. Et ça, ça se joue entreprise par entreprise, service public par service public. Et donc c'est un déplacement de nos organisations collectives, de leur finalité et de leur quotidien qu'il faut construire aujourd'hui. Partons de la conscience morte. Amplifié considérablement avec la crise du coronavirus. Je pense que là, ça a ouvert des yeux de façon massive. La prise de conscience que la façon dont le capitalisme organise la production, avec une division internationale du travail tout à fait excessive, qui entraîne des circulations internationales tout à fait excessives, avec une élimination du travail vivant au bénéfice du travail mort des machines, qui entraîne à la fois des désastres humains, qui entraîne des désastres territoriaux, qui entraîne une obligation de chercher des métaux rares pour alimenter ces machines nouvelles, enfin, etc., 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 avec des phénomènes néocoloniaux tout à fait nocifs. Enfin bref, j'insiste pas, c'est pas mon domaine de spécialité, je voudrais pas non plus me lancer dans des trucs que je connais pas bien, mais en tout cas, là où je connais, c'est-à-dire comment nous sommes mobilisés en tant que personnes, comme travailleurs, comme contributeurs au bien commun, là il y a une telle conscience que le capitalisme ne peut plus nous mobiliser positivement comme travailleurs, qu'on ne peut plus se contenter de pratiquer la grève comme arrêt du travail, comme occupation des usines. La grève, ça doit être maintenant... Nous travaillons, bien sûr, mais nous travaillons comme nous l'entendons. Nous envoyons au plot les directions, nous envoyons au plot les logiciels qui enserrent notre travail concret, nous envoyons au plot les directives que l'on nous impose. Nous décidons de travailler comme nous l'entendons. C'est pour moi le cœur de ce qui va ensuite rendre possible la mobilisation pour, par exemple, ne pas rembourser les dettes d'investissement. Rendre populaire la proposition d'une sécurité sociale de l'alimentation, ça suppose qu'on rende populaire le fait de ne pas rembourser les dettes d'investissement. Et pour rendre populaire quelque chose qui va complètement à l'encontre de toute notre éducation, une dette, ça se rembourse, enfin, etc., on nous a inculqué ça comme le béaba de la vie sociale, il faut que nous nous heurtions concrètement aux prêteurs dans les entreprises, que nous voyons que ce sont eux qui nous empêchent de travailler parce que nous allons décider de travailler comme nous l'entendons et hop, nous allons voir que les actionnaires, les prêteurs s'opposent à nous. Et c'est ça qui va nous rendre ensuite déterminés à en finir avec les actionnaires et les prêteurs. Non pas en gagnant les élections présidentielles, tout ça c'est de la connerie, mais non, en prenant le pouvoir dans les entreprises. En prenant le pouvoir dans les entreprises, évidemment qu'il faut le relais, ce qui était le cas des communistes en 1946, le relais de ministres, 5 ministres sur des strapontins, hein, ce qu'on donnait des communistes, la santé, le travail, puis démerdez-vous avec ça, aucun ministère fondamentaux. Eh bien, ces ministres communistes, appuyés sur une mobilisation populaire dont j'ai parlé de 1946, ils ont fait merveille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de prendre le pouvoir d'État pour imposer des mutations considérables dans un sens communiste à l'intérieur du capitalisme.
Donc Bernard, une prise de conscience générale se fait et tous les travailleurs, travailleuses prennent le contrôle de leur outil de travail et disent aux actionnaires et aux petits chefs « bon ça va bien, maintenant c'est nous qui savons faire » et puis « ok ». Est-ce qu'on garde l'outil État ? Parce que par exemple, pour débloquer nos 120 milliards pour notre sécurité sociale alimentaire, il faudra bien que quelqu'un appuie sur la manette ou sur le bouton. Ou pour dire aux créanciers, écoutez la dette, vous êtes bien gentil, mais vous pouvez vous la tailler en pointe et vous en servir comme d'un clister. Il faudra bien qu'on ait la main sur un levier. Donc on garde cette structure d'État ? On garde cet outil ou pas ?
Ce que je constate, moi, à partir de l'objet de ma recherche, les questions de sécurité sociale, de salaire, de statut du travailleur, c'est que nous avons bien, en 1946, un régime général de sécurité sociale à l'échelle de la nation, qui est une institution protégée par la loi, qui impose aux employeurs de verser des cotisations, enfin, etc., qui a donc ce qu'on réfère en général à l'État. Or, ce n'est pas l'État, ce sont les travailleurs organisés, c'est-à-dire qu'on peut désétatiser les fonctions collectives qui sont absolument nécessaires. On peut désétatiser les fonctions collectives qui doivent pouvoir s'appuyer sur la police et la justice pour imposer je sais pas quoi, le versement d'un taux de cotisation pour prendre, faire allusion à, au régime général, mais enfin n'importe quel autre dispositif déterminé collectivement par des délibérations qui relèvent du Parlement, mais qui relèvent aussi de bien d'autres lieux de détermination collective de notre vie commune. Donc, il faut évidemment des instances collectives, mais ces instances collectives, je pense qu'il faut les désétatiser. Il faut que ces instances collectives soient gérées par les intéressés eux-mêmes.
Bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur n'est pas de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de vos philosophies. Debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Empare-toi maintenant de l'usine, du capital, ne sois plus serviteur. Reprends l'outil et reprends la machine, tout est à tous, rien n'est à l'exploiteur. Oui, la patrie est une baliverne, un sentiment doublé de lâcheté. Ne deviens pas de la viande à caserne, je ne conscris, il vaut mieux déserter. Debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosophique. Debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher.
Le triomphe de l'anarchie, interprété par les quatre barbus.
Bernard Friot, on arrive bientôt au terme de cet entretien. Je vais vous demander de redire un truc que vous avez déjà dit, mais qui me semble fondamental. La pédagogie, c'est l'art de la répétition. Pour que cette prise en main de nos vies, de nos outils de travail, elle se fasse, il faut qu'on soit éclairé. Qu'on soit éclairé notamment sur notre histoire et sur notre histoire populaire. Par exemple, je n'ai découvert l'existence d'Ambroise Croizat dans une émission de Daniel Mermet qui s'appelle « Là-bas si j'y suis » et qui existe toujours, jusqu'à ce que Mermet me raconte cette histoire. J'avais jamais entendu le nom d'Ambroise Croizat. Le premier nerf de la guerre aussi, vous l'avez déjà dit, c'est la connaissance de notre histoire populaire et puis aussi des faits. Enfin, moi je suis stupéfait comment les médias dominants arrivent à faire croire à une masse de gens que nous sommes devenus un pays du tiers-monde. Nous ne pouvons plus payer nos profs et nos infirmières, mais en même temps, nous sommes 7e puissance économique du monde. Mais on est devenu si pauvre et si endetté qu'on ne peut plus assurer nos services publics. Donc l'un des nerfs de la guerre, c'est quand même l'information et la connaissance de notre histoire. On ne peut pas savoir où on est, ni définir où on va, si on ne sait pas d'où on vient.
Non mais bien sûr, hein, l'histoire populaire est volée par la classe dirigeante qui s'ingénie à construire une histoire officielle. Pour prendre mon domaine de recherche, moi-même, dans les années 60, lorsque j'ai fait mes études en économie de la sécurité sociale, le nom de Croizat n'a jamais été prononcé. Jamais on prononçait celui de Larocque, le directeur du régime général, mais celui du ministre qui a mis en place le régime général, bon, jamais, non, bien sûr. Et on nous a enseigné que la Sécu, c'est De Gaulle, hein, alors que c'est un adversaire acharné du régime général. Hein. Il démissionne dès janvier 1946, tellement il ne supporte pas que Croizat, Torres soient dans son gouvernement. Il a été obligé de les nommer ministre parce que les communistes ont gagné les élections législatives, les premières élections législatives d'après-guerre en novembre 1945, mais il démissionne dès janvier 1946. Il ne supporte pas et donc cet immense adversaire du régime général de la sécurité sociale va être baptisé père de la sécu. c'est très grossier. Et bien sûr que récupérer l'histoire populaire et en faire le récit, ça fait partie des éléments utiles, décisifs. Moi, j'en suis pas sûr. Encore une fois, les éléments décisifs, vous les avez donnés au départ. Hein, c'est des prises de conscience d'une impasse dans laquelle le capitalisme nous met et de voies de sortie possibles parce qu'il y a déjà des alternatives minoritaires qui ont été mises en place et une capacité à fédérer ces initiatives alternatives et à y faire adhérer tous ceux qui prennent conscience de la nocivité du capital. Oui, bien sûr. Comme outil utile dans l'affaire, il y a bien sûr la... C'est ce à quoi je m'emploie d'ailleurs, hein, c'est mon métier, hein, c'est de construire le récit de l'histoire populaire du droit du travail, du droit au salaire, du droit de la sécurité sociale. Enfin non, pas d'un point de vue juridique, je ne suis pas juriste, mais de ces droits qui ont été construits contre vents et marées au cours du XXe siècle.
Point essentiel avant de finir, on vous l'a souvent dit dans cette émission, la fameuse dette dont on nous rebat les oreilles pour nous culpabiliser et nous soumettre, la dette est une arme du capitalisme. La dette est un choix politique. On pourrait aussi décider que la dette n'existe pas. Bernard Friot.
Moi, ce qui me paraît, à propos de la dette, décisif, même chose que vis-à-vis du marché du travail. La bourgeoisie capitaliste a enfoncé dans nos têtes l'idée que pour travailler, il faut s'endetter. Et qu'un travailleur, il travaille pour rembourser une dette. Et qu'un travailleur, c'est quelqu'un qui va sur un marché, le marché des biens et services s'il est indépendant, le marché du travail s'il est travailleur employé. Et que c'est sur ce marché que l'on conquiert sa reconnaissance comme travailleur. Et évidemment, la bourgeoisie est gagnante puisque c'est elle qui est en capacité de prêter et puis que c'est elle qui a la main finalement sur les marchés du travail ou des biens et services. Et donc là, il y a un travail anthropologique à faire. Tant que nous sommes convaincus qu'on est travailleur qu'au prix d'une subordination au marché du travail ou des biens et services, et d'un endettement, la bourgeoisie, c'est la même chose en matière d'histoire, de vol de l'histoire populaire, la bourgeoisie maîtrise nos consciences, maîtrise le récit de l'histoire et maîtrise nos consciences. Donc, se libérer de cela, ça suppose effectivement de développer une toute autre anthropologie dans laquelle un travailleur, c'est pas du tout quelqu'un qui se soumet au marché du travail ou des biens et services et qui rembourse une dette. Un travailleur, c'est quelqu'un qui est responsable de la production, qui en a la co-responsabilité, qui a la responsabilité de participer aux décisions concernant ce qui est produit, qui a la responsabilité d'organiser le travail, pas d'attendre que des gens auxquels il se subordonne l'organisent, et quelqu'un qui a les outils de cette responsabilité, c'est-à-dire qui est titulaire d'une qualification, qui reconnaît qu'il est en capacité de produire, qui est titulaire de son salaire, qu'on soit titulaire de son salaire de 18 ans à la mort, et que ce salaire démarre à 1700 euros et n'aille pas au-delà de 5000, qu'on soit dans un rapport de 1 à 3, et puis qu'il soit également copropriétaire de l'outil de travail avec lequel il produit, et qu'il soit codécisionnaire de toutes les instances de coordination de l'activité économique, les caisses d'investissement, les jurys de qualification, etc. C'est ce bon anthropologique qui est à l'ordre du jour. Et c'est cet imaginaire-là qu'il s'agit de rendre populaire.
Et voilà les amis, c'est ici la fin de cette conversation avec Bernard Friot qu'on remercie chaleureusement. Émission à réécouter sur notre site polymixetlavoixoff.com. Avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G. www.radio-g.fr. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM.